Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 93e numéro d'En Spectateur, dans lequel nous allons entrer dans des univers d'amour passionnel et d'obscurité. Et pour cela, je reçois aujourd'hui Sarah et Tristan. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
C'est un spectateur en deux parties que nous vous proposons aujourd'hui, puisque Sarah et Tristan vous parleront d'abord d'une pièce qu'ils ont vue au Célestin, puis j'évoquerai brièvement une pièce du Festival d'automne de Paris, mais qui tournera en France et notamment très bientôt à Mulhouse, Le procès de Franz Kafka, mis en scène par Christiane Loupa à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Nous allons donc parler de théâtre, bien sûr, mais aussi un peu de cinéma d'abord, puisque vous êtes tous les deux allés voir Le Dernier Métro, adaptation du grand film de François Truffaut, dans lequel Catherine Deneuve, alias Marion Steiner, s'occupe d'un théâtre à Paris sous l'occupation nazie. Et alors que tout le monde croit que son mari a fui la France, on découvre qu'il se cache en réalité dans le sous-sol du théâtre. Ce secret devient plus compliqué à garder lorsque Luca Steiner se rend compte que sa femme semble être tombée amoureuse du jeune premier de la troupe du théâtre, Bernard Granger, interprété par Gérard Depardieu. Alors il est souvent compliqué d'adapter du cinéma au théâtre, mais dans une interview accordée au Célestin, le metteur en scène Dorian Rossel dit vouloir faire revenir les gens au théâtre par le biais de cette adaptation, censée mettre en avant la beauté de la langue spécifique au théâtre, langue à la fois orale et scénique, et on écoute tout de suite un extrait du spectacle. Alors on vient d'entendre une petite ambiance du spectacle. Est-ce que selon vous cette adaptation est convaincante?
Par rapport au film de Truffaut, dont j'ai vu juste quelques extraits, je précise quand même, je trouve que c'est assez bien fait. C'est-à-dire que la relation entre Steiner et Granger est assez bien rendue. Est vraiment très bien rendu, ce qui n'est pas forcément facile quand on a face à soi l'origine Catherine Deneuve et Gérard Depardieu quand même. Et puis même au niveau des couleurs qui ont été employées, je trouvais que c'était bien rendu aussi. Puis pour l'atmosphère générale, je pense que c'est une bonne adaptation. Les personnages sont respectés, on les reconnaît d'emblée.
Et pour ma part, je n'ai pas vu le film, mais j'ai seulement... lu que ce film Le Dernier Métro était un hommage au théâtre et j'ai l'impression que cette adaptation opère un peu un chassé-croisé parce qu'il est dit dans la maquette, enfin dans la plaquette du théâtre, et même on peut le discerner dans la pièce elle-même, que cette pièce va être un hommage au cinéma, donc elle va inverser l'hommage, et donc j'ai été interpellé par cela et ça m'a un peu... au début un peu rebuté parce que j'étais vraiment au début ardent de théâtre. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé au théâtre depuis les grandes vacances. Et donc je vais voir une pièce qui fait un hommage au cinéma. Et pourtant le sujet c'est de persévérer dans l'acte théâtral malgré l'oppression et contre celle-ci. J'ai été interpellé par cette question de célébrer le cinéma au théâtre.
Je trouvais que c'était assez intéressant. Mmh. Ça montre à quel point les deux ne sont pas forcément en concurrence. Mais l'un peut compléter l'autre. Et chacun a ses spécificités qui sont intéressantes. Et ce qui était touchant, c'est qu'il y avait beaucoup de moments où on voyait que le metteur en scène avait essayé de faire des plans comme s'il y avait une caméra au cinéma.
Exactement.
Enfin, je pensais
oui.
Notamment à ce plan où ils sont une espèce de dîner. Et les tables sont retournées comme si on était en plongée.
C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'astuces cinématographiques. Du point de vue des plans, comme tu as dit, faire un plan vu de haut,
oui.
Comme si on était placé au plafond. Mais il y avait aussi, je crois avoir remarqué, des sortes de cuts, c'est-à-dire qu'il y avait un éclairage, une scène, puis un changement d'éclairage brutal et une coordination des acteurs pour se mettre sur un nouveau plan, comme si on y avait une coupure brutale, comme dans les films où on passe d'un plan à un autre. J'avais l'impression qu'il y avait ce jeu aussi.
Oui, oui, oui. Ce qui était vraiment bien avec cette pièce, de ce point de vue-là, c'est qu'en fait, on était dans les coulisses d'un film et d'une représentation. Et c'est marrant parce que l'extrait que tu as mis, en fait, c'était juste avant que se joue la représentation tant attendue de la pièce qu'il voulait jouer dans l'histoire.
D'accord. Et alors, concrètement, est-ce qu'il y a des passages de vidéo? Enfin, vous parlez de moments où on recrée la façon de tourner des films. Est-ce qu'il y a des passages comme ça? Enfin... D'accord, c'est uniquement oui. La recréation de décors et de scènes.
Mmh. Oui. C'est pas mal d'ailleurs à une époque où il y a beaucoup, beaucoup de vidéos, d'abus de vidéos parfois dans les théâtres, assez injustifiés. Mmh. Là, oui. C'est vrai qu'il s'est débrouillé sans usage de la vidéo ou de la caméra.
Oui, mais après, il faut savoir où est-ce qu'il va, enfin, Dorian Russell, qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce que ce sont seulement des astuces ou on utilise des techniques? Parce que je me demandais... Enfin, quel était le fond? Parce que j'ai pas été saisi, j'ai pas été brutalisé, mais indigné aussi, parce que c'est la question de la subversion par le théâtre. Et enfin, je sais pas si toi t'as été emporté par cette question. Alors, on traite du théâtre, mais en même temps, on fait un peu du cinéma, et malgré tout, il y avait un peu un flottement, et j'avais du mal déjà à ce propos.
Oui, bah, en fait, sur la plaquette du Théâtre des Célestins, il dit que le but de sa pièce n'est pas de refaire le film. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est là où il a le mieux réussi, probablement. Et qu'effectivement, au niveau de la subversion, déjà, il traite d'un sujet qui ne concerne pas forcément nos générations, ou du moins notre génération. Et ensuite, je ne sais pas, ça aurait été beaucoup plus intéressant si à la place, c'est ce que je disais tout à l'heure, à la place du juif stigmatisé, on avait l'arabe stigmatisé. Là, ça aurait été du théâtre vraiment subversif et qui parle de problèmes sociétaux actuels.
Parce que cette pièce voulait être un rappel et aussi se télescoper avec nos problèmes sociétaux, comme tu dis, la montée croissante des nationalismes, de la xénophobie. Donc c'est pour ça que tu penses que ça aurait été plus frappant justement de voir un metteur en scène arabe plutôt que juif, parce que ça aurait été plus actuel, d'accord?
Je pense que oui, disons que là c'était pas... Je n'ai pas trouvé ça convaincant politiquement parlant. J'avais l'impression de voir presque un film en fait qui parlait du passé, qui parlait d'une époque passée, avec ses injustices aussi. C'est vrai que c'était injuste la situation de Lucas Steiner et qu'on voit vraiment le dilemme dans lequel est prise sa femme. Est-ce que je dois essayer de résister moi aussi, ou est-ce qu'il faut absolument que je joue cette pièce? Enfin, elle est prise dans ce dilemme-là, mais en soi...
Moi, ce qui m'a le plus gêné par rapport à la résistance, c'est que j'ai l'impression que cette pièce... Je me suis pas trop posé la question du metteur en scène, mais Lucas Steiner, mais plutôt de la pièce en elle-même, qu'il continue à jouer, donc il persévère malgré l'occupation nazie à cette époque. Et on dirait que, comme c'est présenté, il y aurait un éloge du théâtre qui persévère, qui continue à jouer. Mais moi, je n'y ai rien vu d'héroïque, parce qu'en fait, l'horreur, elle s'insinue aussi dans cette pièce, c'est-à-dire qu'il refuse une actrice juive. Ils doivent se plier aux contraintes du directeur du journal Je suis partout, qui est antisémite antisémite et qui veut contrôler les pièces. Enfin, je trouve que c'est la fin qui est intéressante, quand l'acteur principal dit j'arrête de jouer, je vais être résistant. Mm-hmm. Et donc ça me semblait être l'impasse de ce théâtre qui continue à jouer mais qui ne fait rien. Enfin, est-ce que la vraie résistance à cette époque, ce ne serait plus de faire de l'art mais d'aller vraiment se battre? Enfin, parce qu'on dit souvent l'art comme instance de résistance par excellence, ça fait rêver, c'est impossible. Mais en même temps, est-ce que face à ce genre de situation extrême, donc le nazisme, est-ce que la seule résistance, c'est l'arme?
C'est vrai que cette question se pose. Et ce que j'aime bien, par contre, dans cette pièce, de ce point de vue-là, c'est que ce n'est pas une pièce qui va héroïser les gens à tort. C'est-à-dire que elle montre comment ça se passe dans la société et elle montre à quel point ça peut être difficile de lutter. Bon, c'est vrai qu'on ne voit pas du tout le théâtre du coup comme moyen de résistance, quoique finalement c'est le théâtre, le lieu en lui-même, qui va abriter un juif. Mais c'était bien parce qu'en fait il y avait des personnages qui avaient des positions très différentes. Donc il y a Bernard Granger, d'ailleurs je crois qu'ils disent Granger dans la pièce.
Ah oui,
je sais plus.
D'accord.
Du tout, mais il me semble, enfin c'était marrant, mais dans le film ils disent Granger. Mm-hmm. Bon bref, il y a ce personnage qui décide de partir donc, et de prendre les armes à la résistance. Il y a Marie Steiner qui abrite son mari et qui refuse à côté des acteurs juifs, effectivement, et qui essaie de lutter pour que la pièce puisse être jouée. Du coup, bah, elle est un peu torturée. Enfin, bon, je l'ai dit tout à l'heure. Puis après, il y a la petite, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui prend tout. Elle le dit à un moment. Je prends tous les rôles. S'il faut collaborer, mais je collabore. Oui. Je prends tout. Voilà, c'est comme ça. Et enfin, il y a des voleurs. Il y a aussi, il y en a qui sont révoltés contre ce qui se passe vis-à-vis des juifs. Il y en a qui ne font rien, qui s'en fichent. Du coup, c'est bien. On a vraiment différents points de vue.
Mais j'ai l'impression que globalement, il y a quand même une passivité malgré cette envie de faire du théâtre. Comment ils sont représentés? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'abdication. Enfin, ils résistent par le théâtre, mais en même temps, l'horreur, elle s'insinue dans la pièce. Enfin, ils sont pris en étau. Enfin, il y a une actrice qui prend tout, donc elle s'en fiche de quoi jouer. Le comédien principal... Il n'y a aucun héros, justement, et c'est même l'inverse. Enfin, j'ai l'impression que c'était décrit comme une pièce de résistance, et c'est tout l'inverse. C'est montré comment, parfois, la pièce qui résiste est parasitée par son environnement politique.
Mais je pense qu'en fait, c'est une pièce de résistance, peut-être, mais pas au sens de résistance face au nazisme. Enfin, pas au sens de résistance, les résistants.
Quand tu parles de la pièce, c'est la pièce qui monte à l'intérieur de la pièce que vous voyez ou du film.
Non, pas la pièce qui monte à l'intérieur, mais la pièce... Le dernier métro. Mm-hmm. Mais je pense que c'est une...
Ah oui, moi, avant, je parlais...
Ah d'accord, tu parlais de...
Oui, pardon, je parlais de la pièce qu'il s'évertue à jouer malgré tout.
Ah oui, d'accord.
Enfin, dans le truc méta... comment ça s'appelle ? Enfin, dans la mise en abîme...
Ok, j'avais pas compris ça. Bah du coup, c'est présenté comme pièce de résistance. Oui, il y a la résistance, donc la résistance des résistants, des personnes qui prenaient les armes face aux nazis. Mais il y a aussi la résistance, c'est un petit théâtre qui lutte malgré tout et c'est très beau à voir. Et un truc.
Moi, j'ai beaucoup moins été touché par cet aspect. Enfin, j'ai pas trouvé le. Je n'ai pas été touché par la subversion. Enfin, j'ai eu du mal.
Bah, je sais pas si c'est tellement de la subversion, par contre, de ce point de vue-là. Enfin, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça nous montrait quand même les difficultés auxquelles on pouvait se heurter quand on voulait être intervenant au théâtre ou dans n'importe quel spectacle. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Enfin, je ne sais pas, en tant que spectateur qui vient de temps en temps au théâtre, qu'est-ce que je fais? Je m'installe dans un fauteuil, je regarde la pièce et je ne pense même pas à tous les détails techniques qu'il peut y avoir. Enfin, tous les détails. Tout l'aspect technique, toutes les complications aussi qu'il peut y avoir administrativement et tout ça, trouver une salle, pouvoir monter un projet. Enfin, c'est énorme comme travail. Et de ce point de vue-là, il y a vraiment une précarité à laquelle on ne prend pas forcément garde quand on n'est pas là-dedans, quand on n'est pas dans le milieu. Et c'était bien de voir ça, j'imagine. Et puis, après, du coup, je fais un saut qui n'a pas beaucoup de rapport. Ce qui était rigolo, c'est que ça parlait de quelque chose de très sombre, d'une période très sombre. Bon, le nazisme, il y a un metteur en scène qui est génial et qui est enfermé dans une cave. C'est quand même assez terrible. Et en fait, c'était pourtant drôle la plupart du temps. Je trouvais ça marrant, ne serait-ce que par exemple, à un moment, il y a... un personnage qui arrive et qui donne une contrebasse à Marie Steiner. Et elle dit, mais pourquoi tu me donnes une contrebasse? Bah, c'est pour mettre le jambon dedans. et le pire, c'est qu'à l'intérieur, on voit un carton sur lequel est peint un jambon. Enfin, c'est fait exprès que ce soit un carton. Et il y a aussi un moment où il y a un écriteau jambon qui apparaît, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, c'est super marrant, ça.
Par contre, là aussi, j'ai eu du mal à rentrer dans l'humour, parce que j'ai été... particulièrement exaspéré par déjà par l'acteur principal qui est misogyne, enfin comment et orgueilleux et misogyne. Tu te rappelles comment il parle, il séduit, enfin il tente de séduire une costumière,
oui, oui.
Je crois.
Oui, c'est assez particulier.
Ouais. Et justement là je trouve que c'est là aussi qu'on voit comment la crasse s'insinue, qu'il y a aucune héroïsation. C'est dans chaque personne. Faire du théâtre, ça rend pas génial pour autant. Et c'est peut-être ce que j'ai l'impression de ce que j'ai retenu. Ça déromantise la vision du théâtre, malgré ce qui est souhaité par Dorian Russell, peut-être.
Là-dessus, je ne sais pas, parce que finalement, je n'irai pas jusqu'à parler de crasse, parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez banal, en fait. Enfin, c'est un peu triste à dire, quand même.
La crasse peut être banale. Enfin...
Oui, mais c'était plus... Enfin, moi, j'ai vu ça de manière plutôt drôle. J'ai l'impression qu'il ne se prenait pas non plus au sérieux. Et ça crée, comme il le répétait, sa formule, ses formules misogynes, comme il avait tendance à les répéter, ça donnait un effet un peu comique. On a l'impression que c'était un... Certes, c'était le premier rôle, mais enfin, c'était surtout un gars qui était pâteau, complètement maladroit et qui n'arrivait pas du tout à ses fins avec les femmes.
C'est vrai qu'il y a le comique de répétition à l'impuissance où il est toujours contrarié et ridiculisé, mais encore heureux. Et je suis pas sûr qu'on devrait rire qu'une personne misogyne ne réussisse pas à ses fins et que ce soit ça qui soit drôle. Mais aussi, par contre, à la fin, oh, il a une sorte de peut-être de gloriole, tu sais, quand la metteuse en scène, Madame Steiner, révèle son amour pour lui et réciproquement apparemment.
Oui, il a une petite gloriole. Mais alors, de ce point de vue-là, j'ai beaucoup aimé la fin de la pièce. Et après y avoir réfléchi, parce que je trouve qu'elle n'est pas si simple que ça, cette fin. Alors je ne sais pas
Il faut pas la faire complètement. Un attention. Ça joue encore jusqu'à demain soir. Ok. Donc, n'en révèle pas trop.
Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a plusieurs manières de l'appréhender. Soit on peut la voir comme quelque chose de particulièrement malsain. Enfin, bon, mais du coup, on va laisser les futurs spectateurs comprendre pourquoi je dis ça. Soit on peut la voir aussi comme une fin un peu de happy end, ou je ne sais pas, enfin un truc un peu banal, quoi. Pas très intéressant. Enfin, je ne sais pas, il y a plusieurs manières, en fait, de l'appréhender, cette fin, et ça a un peu un rapport avec la petite gloriole de... dont tu as parlé, oui. Pour la relation entre Marie Steiner et Bernard.
Ce que j'ai trouvé beau, c'était les moments avec le metteur en scène. Quand il a un amour effréné pour le théâtre, et pourtant il est reclus, il est enfermé, il est caché dans un souterrain, enfin sous les planches, justement. C'est les planches, en fait, c'est les planches comme un cercueil, parce qu'il ne peut plus mettre en scène, mais en même temps, c'est ce qui lui permet de se cacher et de survivre. Donc c'est marrant que ce soit des planches. Salvatrice, oui. Et d'un cercueil presque. Et c'était beau quand il essayait de trouver des moyens pour faire un trou dans l'aération, ou pour pouvoir écouter les répétitions et pour pouvoir le soir même donner des indications à Madame Steiner.
Oui.
Et on voit bien que Madame Steiner l'est épuisée, et puis c'est elle qui met en scène au final. Donc elle l'écoute pas vraiment. Et c'est un peu touchant comment il est coincé, même dans la création.
Oui, oui, oui. Ça, j'ai particulièrement apprécié. Enfin, c'est vraiment, on a l'impression que dans cette pièce, on a l'impression que le théâtre est un lieu de vie. Et c'est un peu un huis clos, je pense, parce que on reste tout le temps dans le théâtre.
Il est tout le temps fermé d'ailleurs. Et on souvent la référence au fait qu'il est fermé.
Oui, oui, oui.
Comme une protection parfois.
Oui. Enfin... Oui, et puis on voit très peu de répétitions, on voit surtout les moments entre les répétitions. Donc, c'est-à-dire quand les comédiens arrivent tous, ou bien quand ils s'apprêtent à partir. Ou alors quand c'est la nuit que Marie Steiner va voir donc Lucas Steiner. Et en fait, on voit que le théâtre, c'est un lieu de vie. Et on ne voit pas du tout les massacres qui peuvent se passer à côté. On ne voit pas du tout l'ambiance morose et inquiétante qu'il pouvait y avoir à l'époque en France.
Et justement, est-ce que c'est un lieu de vie ou de dénégation de la réalité? Est-ce que c'est un lieu de vie ou un lieu qui va nier là ce qui arrive vraiment de grave et qui va se recroqueviller dans une pseudo-résistance qui est en fait une fuite en avant. Enfin, c'est vrai qu'il y a une ébullition, comme tu dis, puis enfin, en même temps, il y a une expression, c'est enfermé dehors, mais là, ça serait... Et oui, ils sont, en s'enfermant dans le théâtre, ils sont enfermés en dehors du réel. Enfin, il y a une fuite, en fait. Et c'est pas du tout ce que dit Dorian Rossel, on continue de jouer parce qu'on veut résister. Bah là, on se protège. Enfin... On fait à huis clos.
Ils sont plus dans la protection que dans la résistance agressive. Mais par contre, il y a quand même... ils ne sont pas non plus enfermés dans leur propre petit univers du théâtre. Je pense qu'il n'y a pas que ça, parce que justement, il y a la fille qui dit qu'elle est prête à tout prendre et qu'elle s'en fiche de traîner avec des Allemands ou pas. Il y a aussi... il y a beaucoup de problèmes du dehors qui sont évoqués à l'intérieur du théâtre. Le problème des vols aussi qui a été évoqué. Enfin, il y a une fille qui a été dévalisée, donc au cœur du théâtre, dans sa loge, je crois. Non, je ne pense pas qu'ils restent enfermés dans leur petit univers rassurant.
Enfin, du moins, ils essayent, mais ils sont constamment mis en déroute par la barbarie extérieure qui s'insinuait, je trouvais. Quand on se rend compte qu'en fait, l'actrice en question, elle veut juste être une actrice célèbre, peu importe... sa résistance, sa morale. Et il y a plusieurs cas comme ça qui révèlent que c'est pas un lieu de protection. Même si c'est huis clos tout le temps, ça ne marche pas. Il y a toujours une fêlure dans une sorte de résistance, enfin de résistance par l'art.
Bon, vous avez dit beaucoup, beaucoup de choses. Pour résumer, est-ce que vous recommanderiez plutôt ce spectacle ? J'ai l'impression que oui, mais des doutes subsistent.
Oui, parce que j'ai trouvé ça intéressant, mais ça ne m'a pas saisi au trip, donc en quelque sorte. Mm-hmm. Mais si ce n'est qu'intéressant, est-ce qu'on y va ?
Moi, je dirais que oui, c'est un moment assez agréable à passer, et puis ça permet de se rappeler que c'est... Truffaut, c'est cool aussi. Du coup, ça peut donner envie à des gens de regarder le film de Truffaut. Bah, c'est vraiment agréable. Je pense que ça va.
Oh, merci beaucoup. Alors, Le Dernier Métro par Dorian Rossel, c'est donc au Célestin jusqu'à demain soir, 4 octobre, à 20h. Le procès de K. Prendre le temps d'observer une femme pliée des bas, double de cette autre femme qui repassait des chemises dans Place des Héros, et regarder par la fenêtre, encore et toujours, ce qui se passe au dehors de soi, dans le grand flot de l'histoire inaccessible. Regarder par la fenêtre, c'est voir, mais aussi entendre sans toujours saisir les bruits et les images. C'est rester bloqué à l'intérieur de ces fantasmes quand la poussière et la saleté ont envahi la vitre. Relent de fascisme en Pologne, accusé, effrayé, effrayant à la bouche bâillonnée au scotch noir sous les yeux de Joseph K. Corps nu, troupe de théâtre sous pression, pulsion sexuelle exacerbée de Franz K. Tir de mitraillette et voix grave, en apparence innocente, de K. Lupa, qui nous susurre des mots doux. L'assassin est dans la salle du public. Il faut attendre, non pas que l'action se déroule, mais que ce rythme tendu et distendu à loisir de la représentation devienne notre propre rythme. Apparemment, on sait à quoi s'attendre. On connaît la suite, nous dit-on. Ou pas, et c'est ce qui est effrayant. La sensation que l'on devrait savoir ce qui se passe et pourtant de ne jamais atteindre la réponse, comme Joseph K, ignorant du motif de son accusation jusqu'à l'ultime minute du spectacle. Il ne faut pourtant pas que la tristesse l'emporte. Et le tango nous emmène dans cette volonté illusoire de frivolité, toujours animée d'une tension sous-jacente, à l'image du « ne vous entretuez pas » final, qui sonne tant comme un espoir que comme une question laissée en suspens. Il ne nous reste alors plus qu'à respirer sur les bruits de pas, sur les claquements de portes, sur les cris et les pleurs, tandis que le temps semble s'arrêter au chevet d'un pays et de personnages malades, au chevet d'un Franz K qui ressemble à un vieillard et se fait encore manipuler malgré lui, comme son personnage Joseph K qu'il aperçoit par la fenêtre, devenu miroir de soi. La vidéo superpose les plans de la réalité et du rêve, parce qu'adapter le procès, c'est exploiter ce qui n'est pas écrit, ce qui nous manque dans ce roman inachevé. Selon Lupa, il faut alors considérer ces vides, un peu comme ces taches blanches qui constellaient autrefois la carte du monde et qui attiraient des aventuriers et des voyageurs. Rien ne semblait les exciter plus que de s'enfoncer dans une tache blanche pour voir ce qui s'y trouvait. Ce sont donc autant la curiosité que le rêve, les moteurs de nos yeux qui cherchent à percer le mystère angoissant de la scène, peuplé par des acteurs magnifiques d'intensité. Kafka ne nous parle pas, mais la société et l'enfer administratif qu'il dépeint se reproduisent à l'infini et Lupa part à la recherche de ce motif dans le tapis de son œuvre. Alors oui, nous sommes fatigués parfois, perdu souvent dans ce foisonnement de références tant textuelles que politiques, mais le temps dans lequel nous sommes plongés pour un peu plus de 4h30 de spectacle nous montre quelque chose de plus fragile que tout ce qui peut être dit, la sensation d'autres textures et d'autres mondes, malgré un retour perpétuel dans l'univers énigmatique de ces silhouettes surgies d'une temporalité qui se situe à la fois avant et après nous. Je ne vous dirai donc pas merci, je n'ai pas à vous remercier. Je vous dirai que grâce à vous, j'ai l'impression que la fenêtre par laquelle je regarde est certes plus opaque qu'auparavant, mais que l'horizon que je perçois au dehors semble s'être agrandi. C'est la fin de ce En spectateur consacré au Dernier Métro et au procès. Merci à vous de nous avoir suivis. Le numéro était aujourd'hui présenté par Juliette Meul. Les yeux critiques étaient ceux de Sarah Andria et Tristan Barberousse. Merci à tous les deux. Et merci à Félix Barancy pour la régie. Je vous rappelle également que si vous désirez connaître les secrets de création des plus grands, notre nouvelle émission Microcoulisses vous fait découvrir les spectacles avant que ceux-ci ne soient joués. Les premiers numéros sont consacrés au Cité Muse. La saison théâtrale lyonnaise ne fait donc que commencer en ce début du mois d'octobre et nous revenons très vite avec de nouvelles critiques de spectacles. Mais d'ici là, n'hésitez pas à aller explorer les programmations pour le théâtre, l'opéra, les ballets. Bref, n'oubliez pas de vivre en spectateur.